Bon, bonjour à tous. Je suis venu ici au stand d'éducation populaire d'Obou pour vous parler aujourd'hui des traités de libre-échange et plus spécifiquement du traité transatlantique. Donc un traité qui est en négociation depuis 2013 entre la Commission européenne et les États-Unis. Donc la Commission européenne, qui n'est pas une institution élue, a reçu un mandat de la part de l'Union européenne pour négocier ce traité. Alors pour me présenter rapidement, je m'appelle Lionel, donc j'ai fait 5 ans d'études d'économie à Dauphine, donc un lieu qui est totalement acquis à la doctrine libre-échangiste et qui essaie de la développer. Et quelque chose qui est intéressant, c'est que il y a un an et demi environ, la commissaire européenne au commerce, qui s'appelle Cecilia Malmström, qui est une Suédoise, est venue à Dauphine donner une conférence en grande pompe dans la plus belle des salles de Dauphine pour répondre à nos inquiétudes sur le traité transatlantique. Alors pourquoi est-ce que la commissaire européenne au commerce a besoin d'aller à Dauphine, c'est-à-dire dans un lieu qui déjà promeut le libre-échange et produit des études scientifiques dessus, pour nous rassurer? La réalité, c'est que depuis que les négociations pour le traité transatlantique ont commencé, la mobilisation citoyenne est très forte. Plusieurs livres sont sortis, une pièce de théâtre itinérante contre le TAFTA a été montée. Et on va voir dans cette conférence qu'il y a en effet des raisons de craindre ce traité. En guise d'introduction, j'aimerais rappeler qu'il y a quelques mois, enfin 2 mois à peu près, donc le président du MENEF, M. Gattaz, était à la télé, On n'est pas couché, sur France 2, et nous a expliqué, ce qui est un petit peu un leitmotiv capitaliste, qu'il n'était pas là pour s'occuper de politique, mais d'économie. En effet, sa prétention est de séparer l'économique et le politique, mais c'est très dur, et on se rend compte que les liens sont présents à chaque instant. De quelle économie parle M. Gattaz? Il parle de l'économie capitaliste. Qu'est-ce que le capitalisme? C'est une économie définie par un mode de propriété, à savoir le mode de propriété privée, c'est-à-dire que le propriétaire de l'entreprise réalise souverainement les investissements et les recrutements. Mais le capitalisme a eu plusieurs phases, et depuis les années 80, on est dans ce que les régulationnistes appellent un nouveau mode de régulation du capitalisme, c'est-à-dire une nouvelle phase, et cette phase peut être appelée néolibéralisme. Alors, le néolibéralisme se différencie, on va dire, du capitalisme traditionnel ou familial par deux façons. La première, c'est qu'il y a une séparation entre la propriété de l'entreprise et la gestion de l'entreprise, ce qui permet en fait d'avoir, on va dire, un fusible entre les travailleurs et le propriétaire qui n'est que gestionnaire. Et le deuxième fait nouveau dans le néolibéralisme, c'est le détachement des intérêts des investisseurs et des entreprises de celui des États. Et depuis ce qu'on a appelé le consensus de Washington, c'est-à-dire un consensus dans les politiques et économiques dans les années 80, le but est beaucoup plus d'affaiblir l'État que d'agir de concert avec lui comme au début du siècle. Donc le consensus de Washington, rapidement, il a 3 piliers principaux. Donc le premier, c'est les libéralisations. C'est l'idée qu'il faut essayer de libérer les entraves au marché partout sur Terre, parce que dans la théorie libérale, c'est l'intérêt individuel qui, par le marché, réalise l'intérêt collectif. Le deuxième pilier, c'est la privatisation. L'idée, c'est d'affaiblir l'État et d'avoir un maximum d'entreprises privées et non de monopoles publics, parce que, encore une fois, ça permet d'étendre le règne du marché. Et enfin, le troisième pilier, c'est la discipline budgétaire qui enserre définitivement l'État dans une discipline et l'empêche d'intervenir dans l'économie. Donc en effet, on peut finalement être un peu d'accord avec M. Gattaz quand il dit qu'il s'occupe d'économie et pas de politique, non pas au sens que l'économie n'est pas politique, mais bien que son but à lui est de détacher la pratique économique et le pouvoir économique de la décision souveraine des citoyens. Et le TAFTA en est un très bon exemple puisqu'il est négocié par la Commission européenne, qui n'est pas une institution élue. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste rappeler que le traité transatlantique, en l'occurrence, a plutôt du plomb dans l'aile, c'est-à-dire que les négociations ont commencé il y a 3 ans maintenant, mais de plus en plus les parlements, M. Hollande en personne, commencent à exprimer un certain scepticisme, et ça vient essentiellement de la mobilisation populaire qui est très forte et qui fait craindre à ses élus pour leur poste. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la question de savoir si le TAFTA, donc le traité transatlantique, passe ou non, n'est pas si intéressante que ça. En effet, depuis les années 80 et le consensus de Washington, les traités de libre-échange sont la stratégie principale de développement du marché. Dès lors, en fait, si le TAFTA ne passe pas, il y en aura un après, comme il y en a eu un avant, et comme il y en a plusieurs en ce moment. Pour dire quelques mots, donc en fait, des traités de libre-échange en général, il y a le TAFTA qui est négocié en ce moment, mais il y a d'autres accords. Donc notamment le TISA, qui est en gros l'équivalent du TAFTA mais sur les services, et qui est un accord qui engage quasiment tous les pays de l'OMC. Un accord qui est déjà très ambitieux puisqu'il il implique que les parties, enfin les pays participants ne pourraient pas revenir à des niveaux de régulation sur les services supérieurs à 2015, ce qui est une date totalement arbitraire et qui est déjà bien postérieure au process de libéralisation. Il y a un autre accord en ce moment qui lui a déjà été signé et qui est en phase de ratification, qui est le COTA. Donc c'est la même chose que le TAFTA, en gros, dont on va parler, mais avec le Canada. Et juste pour donner un petit exemple, dans l'accord avec le Canada, donc le COTA, 90% environ des indications géographiques protégées ont été supprimées. Donc l'idée, c'est toujours de faire sauter en fait les protections et les, ce qu'ils appellent les barrières au libre-échange. Donc par exemple, ça veut dire que dans cet accord, certains fromages français ne sont plus échangés en tant que ce fromage-là avec leur prix, mais ils peuvent être produits identiquement au Canada. Il y a un autre type d'accord en ce moment qui est négocié, ce sont les APE, on en parlera un peu plus spécifiquement juste après. Donc ce sont des accords de libre-échange avec l'Afrique. Donc toujours après, c'est cette stratégie d'essayer de relier les espaces entre investisseurs sans passer par la souveraineté des peuples. Il faut aussi voir qu'il y a deux phases dans l'extension du néolibéralisme. Il y a la phase internationale qui passe par les traités de libre-échange et la phase interne, on est en plein dedans, c'est-à-dire une prise de pouvoir dans la plupart des pays d'élite qui sont très libérales et vraiment éduquées au principe du consensus de Washington. En France, évidemment, Emmanuel Macron, le premier d'entre eux. Donc vous avez sur le plan national des lois qui font sauter les barrières sociales et permettent d'étendre le règne du marché comme la loi travail qui va faire sauter le code du travail, mais aussi la loi Macron qui en son temps était déjà une stratégie vraiment très globale secteur par secteur pour faire sauter ce qu'ils appellent les barrières au marché. On va très vite comprendre de quoi il s'agit quand on parle de barrières au marché. On va pouvoir commencer. Il faut, voilà, juste un petit mot. Quel est l'objectif principal des traités de libre-échange, en tout cas du TAFTA, on va le voir dans le mandat de négociation. Il y a deux objectifs principaux. Le premier, c'est de faire sauter ce qu'ils appellent les barrières non tarifaires, ou BNT. Les barrières non tarifaires, c'est tout ce qui peut entraver le commerce. En réalité, tout peut entraver le commerce, puisque le SMIC, qui est une barrière de salaire minimum, évidemment, s'il était plus bas, et les investisseurs feraient plus de profit en investissant en France. Du coup, on peut considérer que le SMIC est une barrière au commerce, et plus généralement, l'ensemble des dispositifs légaux, sociaux, environnementaux, sanitaires. Puisqu'à chaque fois, ce sont des barrières aux échanges, c'est-à-dire une exigence de qualité qu'on réclame. Le deuxième objectif, c'est, on va dire, généralement la protection des investissements. Donc on va voir qu'il y a plusieurs mécanismes qui sont mis en place pour protéger les investisseurs étrangers et en fait donner quasiment une préférence aux investisseurs étrangers sur les investisseurs nationaux. Donc avant de donner un petit peu un florilège des craintes légitimes qu'on peut avoir avant la signature d'un traité comme le TAFTA, il faut rappeler donc voilà que depuis les années 80, on est dans le néolibéralisme et donc on ne passe plus par les tables multilatérales. On ne va plus à l'ONU, on ne va plus à l'OMC où tous les pays sont présents et ont une voix chacun. Mais c'est directement les États-Unis qui négocient avec l'Europe, avec le Panama, avec le Nicaragua. Et dans le rapport de force, évidemment, États-Unis et Nicaragua, on sent que l'accord va être catastrophique. Et dans mon mémoire, j'ai produit un mémoire sur ce sujet-là que je vulgarise ici. J'avais notamment creusé les impacts des traités passés par les États-Unis par le passé, notamment un accord qui s'appelle le CAFTA. Et le CAFTA, c'est un accord entre les États-Unis et quasiment tous les pays caraïbéens. Et certains pays ont, en deux ans, vu leur balance commerciale se détériorer quasiment 300%. Enfin, c'est les pires performances économiques pour ces pays depuis des années. Il y a également l'ALENA, qui est un accord entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, et qui a notamment fait exploser les prix de la tortilla de 200% en quelques années, qui a également fait disparaître près de 2 millions d'emplois dans le secteur familial au Mexique pour les remplacer par des emplois de sous-traitance dans des firmes à la frontière, donc des emplois précaires et difficiles. Voilà, donc on a déjà par le passé des traces de crainte de ces traités, mais maintenant le TAFTA est beaucoup plus ambitieux puisqu'il concerne quasiment 25% des exportations mondiales et à peu près autant des importations, et qu'en vertu des lois de l'OMC, qui implique qu'on n'a pas le droit de discriminer un pays par rapport à un autre, ce traité en fait constituerait les nouvelles bases du libre-échange mondial. Que dit le mandat de la Commission européenne? On va voir d'abord ce que dit la Commission pour savoir ce qu'elle veut négocier. Donc déjà, il faut bien se dire une chose, par rapport aux clichés généralement répandus sur les traités de libre-échange, le but de cet accord n'est pas la baisse des tarifs douaniers, puisqu'à chaque fois, on nous explique que les blocs sont protectionnistes, qu'il y a des droits de douane trop élevés, et que c'est pour ça qu'on fait des traités. Entre l'Europe et les États-Unis, les droits de douane sont d'environ 5%, ce qui est très faible au niveau mondial. Et en fait, le fait de passer ces droits de douane de 5 à 0% aura un effet assez minime sur la croissance et le commerce des pays. Les deux paragraphes les plus longs du traité, c'est-à-dire le paragraphe 23 et le paragraphe 25, ne concernent pas spécialement d'ailleurs la baisse des droits de douane ou les protections sociales. Ils concernent la protection des investissements. Donc ça, c'est le premier article, le 23, qui met en place les tribunaux extrajudiciaires, dont on va reparler. Et l'article 25 qui parle justement des barrières non tarifaires et de leur suppression. Donc on va passer à la suite. On peut également préciser qu'il s'agit d'un accord qu'on appelle profond. Profond, c'est-à-dire que cet accord ne concerne pas que le commerce. Il peut aller plus loin et impliquer des décisions politiques pour les pays. Notamment aujourd'hui, il y a des accords qui vont aussi parler du nucléaire, par exemple. On passe un accord de libre-échange et dedans, on spécifie qu'il y a un accord sur le nucléaire. Donc c'est pas spécifiquement du libre-échange quand même. Et évidemment, dans ce traité, sont exclus tous les programmes de compensation des effets sociaux. Donc il n'y a rien sur la réduction des inégalités, rien en termes d'exigences écologiques et rien en termes d'exigences des normes du travail. Alors pourquoi est-ce qu'on est censé signer un accord de libre-échange avec les États-Unis alors qu'on a déjà tous des iPhones? C'est-à-dire qu'a priori l'échange avec le continent américain est déjà relativement développé. Alors d'après la Commission européenne, c'est parce qu'il y a une convergence culturelle entre l'Europe et les États-Unis. Convergence culturelle qu'on peut mettre en doute. On rappelle que Barack Obama n'a pas fermé le camp de Guantanamo, donc ce qu'il avait promis, que les États-Unis n'ont pas ratifié les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, notamment le travail des enfants, contre le travail des enfants, qu'ils n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto, qu'ils exploitent les gaz de schiste contre le principe de précaution, et évidemment depuis quelques mois, nous espionnent politiquement à grande ampleur quasiment tous les présidents du globe. Également, les États-Unis mettent régulièrement leur veto contre l'application des droits de l'homme à l'ONU, il faut le savoir, c'est arrivé plusieurs fois, le plus souvent sur le conflit israélo-palestinien. Donc on peut comprendre qu'une harmonisation des normes, puisque c'est le but du traité qui tendrait vers les standards américains, a de quoi nous faire craindre certaines choses. Il y a évidemment bon, ce qu'on dit en général sur le poulet chloré, sur ces produits-là, donc les pratiques alimentaires américaines qui peuvent être dangereuses, mais il y a bien d'autres choses. Voilà. Alors il y a aussi un dernier point. Il faut voir aussi que l'Europe est engluée dans une situation d'endettement massive et dans des politiques d'austérité. Et on va le voir, les études économiques qui essaient de faire des prospectives sur les effets du TAFTA ne prennent pas en compte cela. Donc partent du principe qu'il n'y a pas de chômage en Europe, qu'on a la possibilité de faire des pollutantes, etc. Ce qui est complètement factice en ce moment. Enfin, il y a une bonne raison de penser que le TAFTA ne passera pas, parce qu'on prétend qu'il y a une proximité entre les deux blocs. Il faut savoir une chose, on n'a pas les mêmes normes comptables en Europe et aux États-Unis. Ça veut dire qu'on ne compte pas la richesse de la même façon. On va mettre ensemble des blocs dans du libre-échange, les faire mettre en compétition, alors qu'on ne compte pas de la même façon la richesse d'une entreprise américaine et d'une entreprise européenne. En l'occurrence, il est à peu près plus facile pour une entreprise américaine de dissimuler des bénéfices et de les répartir sur toutes ses filiales. Donc ça peut être très problématique pour l'Europe. D'autant que le Sénat vient de passer et vient de refuser dans la loi travail que la limitation des licenciements soit multinationale. C'est-à-dire qu'en fait, en France, maintenant, grâce au Sénat, il va être possible très facilement de déclarer ses bénéfices à l'étranger et de dire qu'en France, on ne fait pas de bénéfices et donc on ferme. Il n'y aura pas de contrôle. Donc ça renforce encore les effets du TAFTA. On va parler spécifiquement de la protection des investisseurs, qui est vraiment l'objectif central du traité, et donc de la mise en place des tribunaux extrajudiciaires, ou ISDS pour Investor to State Dispute Settlements. Donc qu'est-ce qu'un tribunal extrajudiciaire? Pour résumer, on peut dire que c'est l'instauration d'un troisième pilier au contrat social. Le contrat social, c'est donc un contrat entre les citoyens et l'État. Les citoyens payent l'impôt en échange de la protection de l'État. Et il y a un troisième pilier maintenant qui est la rentabilité des investissements étrangers. À savoir, désormais, si jamais le TAFTA passe et qu'on met en place des tribunaux extrajudiciaires, ce qui est déjà le cas dans certains traités de libre-échange, notamment dans le Pacifique, les investisseurs pourront porter plainte contre les États et auprès d'une cour de justice indépendante constituée d'experts du commerce si les décisions de l'État amoindrissent la rentabilité attendue de leur investissement. Typiquement, c'est déjà arrivé, après les révolutions, les printemps arabes, en Égypte, il y a eu une augmentation du salaire minimum et un conglomérat d'entreprises européennes a porté plainte contre l'Égypte auprès d'un tribunal extrajudiciaire pour cette augmentation du SMIC qui amoindrissait la rentabilité de ses investissements. Et l'Égypte a perdu et donc elle a dû payer plusieurs millions. Il y a bien d'autres cas. En Allemagne, l'Allemagne a voulu fermer une centrale électrique. Une société électrique a porté plainte et a obtenu des millions. Philippe Morris a obtenu des millions, je crois, en Australie, suite à la décision de banaliser les paquets de cigarettes. Donc on voit que ces tribunaux permettent vraiment d'agir contre les normes sanitaires, phytosanitaires et sociales des pays. En plus, jusqu'à présent, c'est à peu près à chaque fois l'entreprise qui gagne. C'est-à-dire qu'il y a, sur les 16 ou 17 procès, il y a un ou deux procès où les États ont gagné, 4 ou 5 où il n'y a pas de décision et une dizaine où les entreprises ont gagné. Donc, quel est le motif officiel textuellement qui permet d'attaquer un État en justice? On le sait parce qu'en fait, dans l'ALENA, il y avait une disposition exactement identique qui mettait en place ces tribunaux extrajudiciaires. Mais celle-là a été repoussée. Il y a eu tellement de mobilisation sociale qu'en fait, ils ont fait passer l'accord de libre-échange nord-américain sans cette disposition. Mais cette disposition permettait aux groupes privés d'attaquer les États, je cite, si ces États ne garantissaient pas un cadre réglementaire conforme aux prévisions des investisseurs, mais également en cas d'expropriation indirecte. Expropriation indirecte, ça peut tout dire. Ça peut absolument tout dire. Grosso modo, si vous baissez le profit d'une entreprise, vous l'expropriez en partie, puisque vous baissez son capital. Il faut savoir aussi, ça c'est assez choquant, que jusqu'à présent, plus de 55% des affaires dans les tribunaux extrajudiciaires ont été jugées par une quinzaine de personnes. C'est-à-dire qu'extrêmement peu de gens, mondialement, prennent part à ces procès. C'est quasiment des gens qu'on peut réunir dans une salle. Donc il ne s'agit pas de théorie du complot, mais simplement un petit peu de contre-pouvoir. Il est possible de corrompre quasiment tous ces avocats en même temps. Ce qui est problématique, surtout quand les multinationales sont dans le jeu. Alors, il faut aussi savoir que donc, le TAFTA, en fait, est un accord qui est contraignant à tous les niveaux de décision. C'est-à-dire que le TAFTA s'applique au pays, aux régions, aux départements et aux villes. Donc, quand une mairie prendra une décision légale qui peut amoindrir un investissement étranger, elle pourra aussi être attaquée devant un tribunal extrajudiciaire. On peut imaginer à peu près tout. Mais on va comprendre un peu mieux. Enfin, il faut comprendre un petit peu ce qui se passe. Il y a déjà 58 000 filiales américaines en Europe. Hein, c'est pas nouveau le libre-échange entre la France et les États-Unis, c'est déjà très développé. 58 000 filiales, donc c'est 58 000 filiales qui vont avoir un avantage décisif sur toutes les entreprises françaises. Parce qu'une entreprise française ne pourra pas porter plainte devant un tribunal extrajudiciaire. Donc on donne un avantage compétitif énorme à toutes ces filiales qui sont déjà implantées en Europe. Maintenant, on va parler de la suppression des barrières non tarifaires, donc l'autre objectif du traité après la protection des investissements. Donc j'ai plusieurs sources, notamment un dossier de Mediapart monté par Jean-Paul Carré pour en fait vous donner un petit florilège des effets possibles. Alors lui, il a creusé vraiment le côté plainte contre des institutions locales. Et donc il est tout à fait possible, rien ne laisse penser l'inverse, que le TAFTA permette à des sociétés d'assurance privée d'attaquer la caisse primaire d'assurance maladie pour concurrence déloyale, permette à des sociétés d'intérim d'attaquer Pôle emploi pour concurrence déloyale, permettent également à des sociétés privées d'eau et d'énergie d'attaquer les sociétés publiques pour concurrence déloyale, ou encore, et c'est encore plus drôle, aux écoles privées d'attaquer une école publique pour concurrence déloyale. Donc là, on touche vraiment au cœur. Donc on est bien dans cette stratégie néolibérale qui permet secteur par secteur de diffuser la privatisation. Alors, d'autres menaces, ce qui est intéressant aussi, il y a eu un très bon dossier dans le monde diplomatique en juin 2014 qui montrait aussi les menaces pour les Américains, parce qu'évidemment, les Américains ne sont pas systématiquement moins bien protégés que nous, sur certains points nous sommes moins bien protégés qu'eux, notamment les régulations financières, depuis 2008 et la crise financière, les États-Unis et déjà avant, avaient un niveau de régulation supérieur à l'Europe. Et si on fait converger les standards entre l'Europe et les États-Unis, a priori, les États-Unis peuvent s'attendre à voir baisser leur protection financière et leurs limitations. Après la crise de 2008, ça fait rêver. Notamment, les médicaments sont aussi beaucoup mieux contrôlés aux États-Unis. Voilà, il y a aussi de très bonnes règles de préférence nationale aux États-Unis qui permettent aux entreprises américaines d'avoir des marchés publics plus facilement. Côté européen, on peut évidemment craindre beaucoup de choses. Premièrement, l'érosion des droits des travailleurs, puisque les standards américains sont très faibles sur la protection des droits des travailleurs. Une dégradation de la représentation et de l'information des salariés, puisque les règles sur l'information des salariés s'arrêtent aux frontières. Or, nous sommes dans un traité de libre-échange qui lie deux blocs. Donc une filiale américaine n'aura pas les mêmes obligations en Europe d'information des salariés si elle ferme sa filiale qu'aux États-Unis. Elle ne sera pas soumise aux droits. Donc évidemment l'exploitation des gaz de schiste, puisqu'en Europe pour l'instant nous avons réussi à imposer le principe de précaution mais que ce traité le remet en cause. Aucun engagement dans ce traité sur la mobilité des hommes, donc sur la facilitation des flux de personnes entre les blocs. Il faut aussi savoir une chose qui est un petit peu inquiétante. Dans le traité TAFTA, on définit les services publics à conserver sous forme de liste négative, c'est-à-dire qu'on ne dit pas quels sont les services publics de façon affirmative, on dit quels sont les services non publics. Donc en fait on inverse complètement la réflexion sur ce qu'est un service public. Et on voit bien que le but, c'est de montrer que le service public n'a rien de naturel et que dans certains cas, on ne peut pas faire autrement, comme l'armée, quoi, par exemple. On va voir ça plus précisément avec les études, mais il y a évidemment un risque d'accroissement du chômage, pour plusieurs raisons. Et comme par le passé, le renforcement de la protection de la propriété intellectuelle peut avoir des effets terribles, notamment après ce qu'on a appelé le GATT, qui était, on va dire, l'ancêtre de l'OMC, mais sur la propriété intellectuelle et les services. Un des effets du GATT, ça a été par exemple de priver certaines zones du globe de médicaments génériques. puisqu'il renforçait la propriété intellectuelle des groupes occidentaux sur ces médicaments. Donc par exemple, l'épidémie de malaria en Inde a presque doublé, je crois, en contamination dans les mois qui ont suivi la signature du GATS, parce qu'on n'avait plus les médicaments, on n'avait plus le droit de les vendre. Y a un rapport du Transnational Institute, très intéressant, qui estime que le TAFTA devrait accroître les inégalités au sein de l'Europe, quoi qu'il arrive. Pourquoi les pays européens sont loin d'être homogènes, non seulement en termes de richesse, etc., mais aussi en termes de spécialisation. Quels sont les pays qui s'occupent le plus d'agriculture en Europe? L'Espagne, l'Italie, voilà, les pays du Sud. Donc les pays périphériques, déjà dans les plus grandes difficultés économiques, et qui en plus vont être exposés au plus gros concurrent mondial sur l'agriculture, qui sont les États-Unis. C'est l'agriculture la plus subventionnée, la plus performante. Monsanto est déjà en Europe et fait déjà pression, on le voit. Hein. Récemment, Monsanto a réussi à implanter sa première semence OGM en France. Et donc a priori, si on signe un traité de libre-échange qui fait sauter toutes les protections des pays européens sur l'agriculture, les États-Unis vont nous ramasser la petite cuillère. C'est très clair, l'Espagne n'est pas compétitive face aux États-Unis sur l'agriculture. Donc si jamais les États-Unis vendent exactement le même prix en Europe sans aucune barrière, l'Espagne a priori va encore plus se retrouver dans des difficultés économiques problématiques. Donc voilà, bon, on va la partie sur les accords passés. On va en fait regarder comment est-ce que la Commission européenne justifie la signature du TAFTA. Donc évidemment, elle se base sur des études dites scientifiques. Donc le corpus d'études scientifiques qu'utilise la Commission européenne pour le TAFTA est composé de trois études. Et ce qui est assez intéressant quand on lit ces trois études, c'est qu'en réalité, ces trois études sont faites avec le même modèle et la même base de données. Donc évidemment, les résultats sont les mêmes. On trouve quasiment les mêmes résultats pour ces trois études, des résultats à peu près optimistes surtout. Et moi, dans mon mémoire, je me penchais beaucoup sur les hypothèses de ces études. Il se trouve que la science économique est une science qui réfléchit très peu à ces méthodes. Il n'y a quasiment pas d'épistémiologie, c'est-à-dire de mémoire ou de cours sur comment est-ce qu'on fait bien de l'économie. Et on utilise des hypothèses aberrantes, donc pas de chômage, etc. Des hypothèses aussi statistiques aberrantes, donc par exemple des hypothèses sur la distribution normale, on va dire, c'est-à-dire que là où il y a le plus de gens, c'est la moyenne, alors que par exemple, si vous regardez la courbe des salaires, on voit bien que c'est une courbe qui est complètement exponentielle et que les inégalités sont très fortes. Donc il y a des problèmes statistiques même au bouclage des modèles, et aussi les hypothèses. Mais en fait, ces études ne sont pas si optimistes que ça. Donc évidemment, elle trouve qu'il y aurait un accroissement du chômage, du commerce et de la croissance, puisqu'elle ne pose aucune hypothèse sur des coûts d'ajustement ou sur l'austérité en Europe. Mais elle trouve quand même qu'il devrait y avoir en fait une perte de revenus pour quasiment le monde entier autour de l'accord. Que ce traité devrait affaiblir le commerce au sein de l'Europe. Donc on a quand même plutôt besoin en ce moment de raffermir les liens entre les pays européens que de les casser. Également, ces études optimistes trouvent qu'il y aura un accroissement de la pression sur les ressources et un accroissement des émissions de CO2, ce qui en période de COP21 n'est pas une très très bonne nouvelle. Et également, alors ces traités, de façon assez magique, prédisent 500 euros par ménage européen d'ici 20 ans, ce qui n'est pas non plus énorme. Mais pourquoi est-ce qu'ils peuvent prédire ça? C'est parce qu'ils réfléchissent en moyenne, comme si on redistribuait tous les gains monétaires à tout le monde. Or, depuis les études de Piketty, il y a quelques années, sur les inégalités, on sait qu'aujourd'hui la croissance est redistribuée aux 1% les plus riches. Donc on va faire un traité pour faire de la croissance qui n'est pas redistribué dans tous les cas. Quand on prétend que les ménages américains, européens vont tous récupérer 500 euros, c'est évidemment faux, évidemment. Il faut aussi savoir quelque chose de très drôle, dans ces modèles, les ménages possèdent les entreprises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction entre le propriétaire de l'entreprise et la famille qui achète son pain. C'est la même famille qui possède l'entreprise, qui prête le capital et qui touche le salaire. Donc dans ces modèles, en fait, on réfléchit en moyenne. Tout le monde est mélangé à travers un individu représentatif qui fait tout dans l'économie. Forcément, il s'enrichit, puisqu'il représente tout le monde. Voilà. Et puis, dans mon mémoire, j'ai eu la chance de trouver une étude passionnante, donc une étude qui venait des États-Unis, de la Tufts University, et qui était la seule étude à prendre un modèle différent. Donc, juste tout simplement prendre une autre méthode économique pour essayer d'estimer les effets du traité. Donc, le monsieur qui a réalisé cette étude s'appelle monsieur Capaldo, et il a utilisé le modèle de l'ONU. Donc, on peut pas dire que ce soit un modèle extrêmement hétérodoxe. Il a juste pris un modèle qui permet de prendre en compte, en fait, l'austérité et le chômage. Donc lui, son modèle trouve quasiment, il a appelé ça la désintégration européenne, c'est-à-dire que la signature du TAFTA pourrait mener à plus de 600 millions d'emplois détruits en Europe, à une baisse du PIB dans tous les pays européens, à une augmentation évidemment de l'instabilité financière, puisque nous sommes encore plus dépendants du bloc américain financièrement, malgré la crise de 2008 qu'ils nous ont apportée. Également, voilà, beaucoup de choses, une baisse des exports, une baisse des salaires réels, par augmentation des prix, une baisse du revenu fiscal des États, évidemment, puisqu'on enlève les droits de douane, mais encore une baisse de la part des salaires dans le PIB, ce qui est depuis 20 ans la tendance historique, c'est-à-dire que la rémunération du capital augmente et la tendance des salaires diminue. Enfin, on va conclure là-dessus avant de passer aux questions. Je voulais juste dire donc quelques petites hypothèses qui sont dans les modèles économiques utilisés par la Commission européenne. Donc dans ces modèles, magiquement, que 20% de la richesse créée par le traité sera distribuée au reste du monde. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous gagnez un euro, vous donnez 20 centimes à l'Afrique, c'est exactement ce qui se passe. Donc comme je vous l'ai dit, les ménages consomment et possèdent les firmes, ce qui fait que les résultats moyens peuvent permettre des promesses mirifiques aux Européens. Et puis en fait, il y a les critiques plus techniques. Donc par exemple, dans ces modèles, vous avez des hypothèses d'agrégation, c'est-à-dire qu'on mélange toutes les entreprises de l'économie, on fait une seule fonction de production, et on dit c'est comme ça que ça marche, on a fait la somme de toutes les entreprises, comment elles produisent. Or en fait, on sait en économie depuis 30 ou 40 ans que c'est complètement faux, ça ne marche absolument pas. Et bien que ce résultat soit très connu, c'est d'ailleurs un théorème économique, ça continue à être utilisé dans tous les modèles. On somme toutes les fonctions et on fait une fonction magique qui représente toute l'économie, qui est croissante. Quand vous voyez ces fonctions, le résultat de l'étude est forcément positif. Imaginez qu'on fixe des seuils de départ pour toutes les variables économiques, qu'il n'y en ait aucune qui baisse et qu'on rajoute juste sur l'ensemble du système, par exemple 100 euros. Et en fait, vous répartissez ces 100 euros sur toutes les variables. Puisqu'il n'y a aucune hypothèse de baisse potentielle de ces variables, forcément, le résultat global est positif. Et la dernière hypothèse sur laquelle je voulais revenir, donc il y a deux hypothèses vraiment choquantes. La première, c'est que ces études prédisent la fin du chômage ou une baisse du chômage parce qu'en fait, elles calculent la baisse du chômage selon les variations de demande. C'est-à-dire que quand une entreprise recevrait 10 euros de commandes supplémentaires, elle créerait instantanément, selon un coefficient déterminé statistiquement, 3,2 emplois par exemple. On se rend compte en ce moment, malgré qu'on fait tourner la planche à billets à 200% en Europe, les entreprises ne créent pas d'emplois même quand on leur donne des liquidités. C'est pas comme ça que ça se passe. Elles ont besoin d'un cadre économique positif, de croissance, etc. Donc, on peut pas faire l'hypothèse que le chômage baisse instantanément quand une entreprise reçoit de l'argent, puisque ce n'est pas le cas. Donc forcément, ces modèles trouvent des baisses du chômage assez surprenantes. Pourtant, on a plein d'effets économiques de base qui nous permettent de penser que le chômage va augmenter. Je vais finir là-dessus. Il y a deux résultats économiques très connus. Le premier, c'est que plus une entreprise est grosse, moins elle emploie d'employés par unité de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que plus une entreprise est grosse, si vous avez 1000 entreprises qui produisent 1 euro, elles vont avoir beaucoup plus d'employés qu'une entreprise qui produit 1000 euros. C'est-à-dire que le tissu de PME est beaucoup plus dynamique pour l'emploi que le tissu de multinationales. Il y a aussi autre chose qu'on sait en économie, c'est que quand on fait des traités de libre-échange et qu'on libéralise, ça ne bénéficie qu'aux grosses entreprises. On sait même que ça ferme les petites entreprises. C'est un résultat connu, c'est ce qu'on appelle la rationalisation du tissu productif. Quand on libéralise, beaucoup de PME vont fermer parce qu'elles sont pas assez efficaces et les multinationales vont récupérer leur part de production parce qu'elles ont accès à de nouveaux marchés et elles ont plus de marge. Donc en fait, ces deux effets-là combinés font qu'on sait que mécaniquement que le chômage augmente avec un traité de libre-échange. On sait mécaniquement. Dans ces études, les hypothèses ne sont jamais posées. Et à chaque fois, finalement, on trouve de façon assez magique, par des hypothèses très simples, que le chômage va baisser. Donc voilà, on peut maintenant passer aux questions si vous en avez, que ce soit sur les méthodes des études ou sur ce qu'il y a concrètement dans le traité et sur les risques qui sont à nos portes. Et je finirai juste en vous disant que le plus important, c'est d'avoir à l'esprit que c'est une stratégie politique qui se répétera, que même si le TAFTA ne passe pas, il y en aura un nouveau après, comme ça se passe depuis 30 ans, et qu'il faut juste avoir à l'esprit que... c'est ensemble qu'on fait la politique. Voilà, c'est à l'intérieur d'un territoire qu'on fait la politique. Quand ce sont des entreprises qui se réunissent dans des territoires extraterritoriaux pour négocier en privé, sans représentants des syndicats, sans représentants du peuple, il est évident que l'accord ne nous est que rarement favorable. Voilà, merci.
Voilà, donc on passe à la partie débat. Est-ce que certaines personnes souhaitent réagir? Oui. Alors, ça devrait aller jusque-là.
Il y a eu une belle présentation sur le traité transatlantique. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, nous, en tant que citoyens, on pourrait interagir, faire en sorte que on puisse passer au-delà de la chose. J'ai envie de poser la question tout en sachant que on a des moyens très limités, qui sont proposés par un système qui est établi et dans lequel on est très limité dans notre champ d'action. On pourrait faire des pétitions, on pourrait faire des manifestations, on pourrait faire plusieurs actions et au final, ça reviendrait à la même chose de se dire là j'ai un tract de la lutte ouvrière. Genre des personnes que j'ai rencontrées un peu plus loin, que des personnes que j'apprécie dans le sens, que j'admire, parce qu'aujourd'hui en 2016, ils sont encore là, dans la rue, à tracter et à balancer leurs idées et à dire on pourrait changer les choses, on pourrait faire avancer certaines choses, alors que moi en tant que simple citoyen dans la vie quotidienne, j'y crois pas. Je me suis arrêté pour discuter avec eux parce que j'ai un passé grâce au mouvement anti-CPE. Et pourtant, voilà, leur tract, j'en ai fait une boulette parce que j'ai perdu la foi. Il y avait des choses qui me tenaient, qui me disaient, je pensais vraiment dans ce système avoir une liberté, un pouvoir de faire quelque chose. Et j'habite à côté, voilà. Et c'est la première fois que je viens à une réunion ou à une assemblée comme ça, dans le coin. Et l'exposé que tu as fait, je me permets de te tutoyer, mais l'exposé que tu as fait, c'est la première fois que je vois un exposé comme ça, et j'apprécie. Mais d'un autre côté, c'est un exposé sur les faits qui sont là actuellement. Mais derrière, tu proposes pas de solutions, et j'en ai pas. J'en ai pas brosé et j'aimerais bien qu'on aborde.
Vous voulez dire comment agir en tant que citoyen, par exemple, pour lutter contre.
Alors, merci pour la question. Tu as tout à fait raison. J'ai pas du tout abordé les solutions. C'est aussi parce qu'on a que 20 minutes et qu'il y a beaucoup de choses à dire sur comment le traité fonctionne déjà. Les solutions. Alors, moi, déjà, juste pour remettre en perspective, il faut. Ça fait presque 200-300 ans qu'on se bat contre ces logiques-là. Elles ont changé de forme, etc. Je suis d'accord qu'il n'y a pas de victoire déterminée et définitive. Après, voilà, on a quand même obtenu des choses. En France, il y a la sécurité sociale, c'est un truc complètement énorme. Enfin, arracher ça au capitalisme, il a fallu une guerre mondiale quand même. Donc, je suis d'accord que pour ce qui est de l'optimisme à court terme, c'est très compliqué. Maintenant, il y a un contexte, il y a des choses qui arrivent, et il y a des événements dans lesquels on peut poser dans le rapport de force. Après, à court terme, j'ai envie de te dire, il y a deux choses. Il y a le militantisme politique de rue, etc., qui consiste juste à ennuyer tes élus et à leur mettre la pression sur chaque décision. Et chaque décision est sous-pesée. On a fait retirer le CPE. Enfin, voilà. Là, c'est vraiment du lutte par lutte. Donc, il est évident que c'est en se mobilisant qu'on y arrive. Deuxièmement, il y a aussi, bon, dans une moindre mesure, notre pouvoir de vote ou en tout cas notre pouvoir d'expression d'idées. Et à mon sens, aujourd'hui, il faut se tourner vers des partis. Bon, j'irai pas voter extrême droite en ce qui me concerne, mais je suis pas moraliste. Mais plutôt des partis qui se détournent de ces traités européens, qui sont vraiment des carcans. C'est aussi bête que ça. Nos décisions politiques sont prises ailleurs. Là-dessus, on a encore un pouvoir puisqu'il y a toujours une élection en France. Et à côté de ça, il me semble que, enfin, moi personnellement, je suis assez désillusionné des élections, mais je crois toujours au militantisme politique parce qu'historiquement, il a donné ses preuves. Après, il est évident qu'on peut pas s'attendre d'ici 6 mois, d'ici 1 an, à avoir des résultats concrets. Mais dans tous les cas, c'est notre histoire, tu vois. Et c'est défaite sur défaite, et puis des fois victoire. Et entre nous et le paysan féodal, on a vraiment, vraiment gagné déjà, quoi. On a bien avancé. Je suis d'accord avec toi que c'est très frustrant de voir à quel point c'est bien organisé en face de nous. Voilà, il y a des bureaux, il y a des commissions qui se réunissent depuis des dizaines d'années pour faire passer le TAFTA, pour le négocier entre lobbies. Donc évidemment, nous, on a la ramasse derrière. Maintenant, la réalité, c'est nous. Si des mairies se déclarent en TAFTA, elles l'appliqueront pas. Et on verra comment ça se passe à ce moment-là, parce qu'il faut aussi voir une chose. Les tribunaux extrajudiciaires qui veulent faire appliquer ces décisions n'ont pas tout pouvoir. Ils n'ont pas les armées avec eux. Ils sont 25. Voilà, on a aussi dans notre rapport de force des moyens de dire non. Moi, pour moi, le plus important, ce serait déjà de, entre guillemets, nettoyer notre classe politique en France, quoi. Une fois qu'on aura en France réussi à faire passer des gens un petit peu mieux, et ça va prendre du temps, on aura déjà un poids à notre niveau pour s'opposer. Et puis, évidemment, je pense qu'on est plus fort ensemble, et ça fait déjà juste plaisir d'être avec des militants, de parler d'idées positives, et après Nuit Debout est là pour ça aussi. Commence tout ça, ça commence. En Espagne, il y a des pays où les choses ont avancé plus vite qu'ici. C'est vrai que. Mais bon, on fera pas la révolution demain, je suis d'accord.
Au fait, par rapport à ce qui est possible à partir de ce genre de mouvement où il est difficile de voir du concret en tant que résultat, bon, moi je ne sais pas comment mesurer ça très bien, mais en tout cas. En chronologie, par exemple, en Espagne, on vient de fêter le 5e anniversaire de la semaine du 15 de mai, la semaine où on a occupé la place de Sol et ça a duré un peu plus. Et le 26 juin de cette année, de cet été, on a des élections présidentielles où il y a des grandes possibilités de changement et qui sont à l'issue de ces mouvements populaires. Ils sont pas les ils se posent pas comme représentants de ces mouvements-là, ils n'ont pas la légitimité d'unir toutes les luttes qui ont fait cela possible, mais en tout cas, c'est des grands mouvements populaires qui ont fait en effet un nettoyage politique. On essaie de sortir les vieux partis qui sont trop endettés, donc trop sous la pression des banques. C'est difficile de prendre des décisions politiques qui représentent tes votants quand tu dois payer le loyer de ta de ton siège social au Black. Bon, voilà, les résultats, c'est difficile dans le concret de chaque individu, mais au bout de 5 ans, il y a des résultats en Espagne, par exemple.
Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question ou faire une remarque sur ce qui a été dit ? Sinon, moi, j'avais une question. Quand tu parlais de que dans la théorie qui était présentée, finalement, il y avait sous-jacent une logique de redistribution. Enfin, voilà, que l'entreprise, la famille, tout ça, c'est considéré de la même façon. Je me demande comment est-ce que théoriquement, justement, il parle de cette redistribution, parce que j'ai du mal à la penser sans l'État, mais j'imagine qu'il la pense sans l'État. Donc, il la pense comment ? Au niveau des échanges, au niveau... voilà, c'est ma question, finalement. Comment est-ce qu'elle est développée
Non, merci. C'est une vision politique de l'offre. C'est-à-dire que on fait l'hypothèse, comme je l'ai dit, sur la création d'emplois, qu'en fait, les entreprises récupèrent les gains monétaires et les redistribuent directement. D'autant plus que l'entreprise et le ménage sont la même personne dans le modèle. Donc, il n'y a même pas besoin de redistribution. Directement, l'ensemble de l'humanité récupère les gains du traité puisque c'est elle qui les acquiert directement. Puisque c'est elle qui est en effet l'entreprise, le ménage qui consomme et la banque. C'est aberrant. Dans ces modèles, on a ce qu'on appelle des agents représentatifs. C'est-à-dire que pour réussir à boucler le calcul de cet énorme modèle qui prend des équations qui décrivent toute l'économie, pour le boucler, la seule façon de le boucler, c'est de supposer qu'il n'y a qu'une seule personne qui est l'individu moyen. Sinon, on n'arrive tout simplement pas à calculer de résultats. Et à partir de là, évidemment, mais c'est bien là que c'est complètement magique. Tous les effets économiques réels, c'est-à-dire comment réellement l'argent va d'un groupe social à un autre, sont squeezés dans le traité. Le chômage est réduit directement, mécaniquement. L'argent est redistribué mécaniquement, etc. Et il y a, par exemple, voilà, quelque chose qui est fondamental. On pose aucune hypothèse de coût à l'ajustement du traité. C'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse que la suppression de quasiment toutes nos normes va se faire gratuitement. C'est-à-dire qu'on va pas virer de gens, on va pas avoir à mettre en place de nouveaux textes, on va pas avoir à mettre en place de nouvelles institutions. Tout ça, ça a évidemment des coûts. Par exemple, voilà, il n'y a aucune hypothèse sur les coûts d'accroissement du chômage, parce qu'on sait aussi que l'effet du traité de libre-échange, s'il crée de l'emploi, c'est pas qu'il crée de l'emploi directement. C'est qu'en gros, il supprime tout un secteur, il en ouvre un autre. Donc entre temps, on a comme ça s'est passé au Mexique, 2-3 millions de chômeurs transitoires, comme ils disent. Sauf que dans les modèles, il n'y a pas de transition. C'est-à-dire qu'on passe des 2 millions d'emplois détruits à 2,1 millions d'emplois créés. Entre-temps, il n'y a pas eu d'assurance chômage de verser. Entre-temps, la personne ne s'est pas déqualifiée. Entre-temps, la personne n'a pas perdu espoir en l'économie. Voilà, il fléchit un coup, tout se passe d'un coup. Et bon, en plus, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'hypothèse sur l'austérité, etc. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment que... Enfin, il y a une sorte de magie un peu là-dedans. Moi, je trouve, après 5 ans d'économie, je suis vraiment plus que sceptique sur les arguments épistémologiques de base, quoi. Enfin, à peu près n'importe quel scientifique qui regarde ça à l'extérieur... serait choqué. Puis voilà, comme je vous l'ai dit, 3 études, 3 fois le même modèle, 3 fois la même base de données, quoi. Donc les mecs, ils sont bien. Il y a une autre question ?
Là, on parle de quelque chose qui nous concerne, nous, la politique de notre pays, de l'union qu'on a avec notre pays. Et on fait abstraction totalement du reste du monde. Tu as parlé du Mexique, tu as pris l'exemple du Mexique, mais seulement on parle et on oublie que derrière nous, derrière l'Europe, derrière la France, derrière notre continent et le continent qui est au-delà de l'Atlantique, il y a mes 3/4 du monde qui est à genoux et on pense pas à eux. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'on a les moyens. On a vraiment les moyens de faire en sorte que si moi demain je devais choisir un système, ce serait pas 1% qui aurait les richesses du monde. Ce serait 99%, quitte à mettre les 1% restants à genoux au service du reste du monde. Et on pense pas assez. Là on est trop braqué sur nous. Aujourd'hui, il y a les cheminots, il y a les travailleurs, il y a le Sénat qui s'amuse, tout en sachant très bien que ça passera pas, mais à démonter les 30 et 35 heures et compagnie, on a chacun notre opinion là-dessus, mais on oublie que au-delà de notre confort, c'est que derrière, il y a des gens qui survivent. Et là, je suis en France, tout va bien. Enfin, je pourrais dire, il y a des choses qui vont pas très bien. Ça fait chier d'être dans les transports et de subir des grèves pour des gens qui pensent, qui se battent, qui luttent pour des droits qu'on pourrait pas très bien comprendre nous-mêmes. Mais c'est con, enfin, on est trop axé sur nous-mêmes. Et ce traité TAFTA, traité transatlantique, moi, sans déconner, je pense vraiment que ça n'a pas, au final, dans ma vie, dans mon quotidien, ça n'aura pas une importance. Ça ne voudra pas dire grand-chose. C'est plus au niveau des puissances, des entreprises, des gens qui maintiennent l'économie, enfin, qui ont l'économie entre leurs mains, et on oublie un peu ceux qui sont derrière. C'est con, parce que ça représente quand même une belle proportion de l'humanité, et l'humanité, c'est quoi? C'est nous. Et là, je vais faire Nicolas Hulot, mais je vais pas le faire. J'arrête, je me tais.
Oui, mais je voulais rebondir aussi sur ce que tu dis. Ça veut dire aussi que dans ce système-là sur lequel il s'appuie, il suppose qu'il n'y a aucune inégalité à la base et qu'il n'y a aucun enjeu de pouvoir. Enfin, c'est même pas être sceptique face à ce modèle-là. C'est, comment est-ce qu'on peut utiliser une chose pareille? C'est...
Je vais répondre à ta question aussi, mais sur ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est pour ça en introduction que l'objectif de ces gens-là est de séparer le politique et l'économique. C'est-à-dire qu'en fait, le politique, ça s'appelle la redistribution. De quoi on parle quand on parle de politique depuis le début? Et à chaque fois, c'est de la redistribution. On ne parle pas de la production de richesse, on parle de comment on distribue la richesse. Quelles sont les règles de redistribution dans notre pays, de propriété? Donc évidemment, je suis d'accord, ces modèles économiques présupposent l'absence de politique. Et c'est bien ça le néolibéralisme, c'est l'absence de politique et des lois économiques absolues. C'est complètement aberrant, je suis d'accord. Finalement, on ne s'intéresse pas du tout. Toute la question qui nous occupe est évincée de l'étude. Donc forcément, derrière, il se passe assez peu de choses. Pour revenir sur ce que tu as dit, je suis complètement d'accord. Juste, il y a deux choses. La première, c'est que... Là, je faisais vraiment un traité dans le cadre de la réflexion économique en Occident. C'est un cadre de pensée qui est très restreint. Il n'y a aucun souci là-dessus. On est dans un système qui vit à crédit sur le dos du monde entier. Chaque produit qu'on consomme intègre de la souffrance et de l'exploitation, et j'ai aucun souci là-dessus, voilà. Si tu me demandes mon avis, moi aussi je suis révolutionniste. Donc il est évident que dans la pratique militante, je ne vais pas m'intéresser principalement ou exclusivement à notre continent. Maintenant, il y a une chose, le rapport de force, on peut le construire qu'ensemble. Qu'est-ce qui fluidifie le mieux le rapport de force que parler la même langue? Concrètement, on peut avoir des idées internationalistes et pleurer pour d'autres pays, mais... À notre niveau, tout ce qu'on peut faire, c'est saluer aux gens autour de nous. Donc c'est aussi pour ça que c'est pertinent de parler de notre cadre, même s'il faut avoir des idées ensuite. C'est parce que le meilleur moyen, par exemple, de faire cesser l'exploitation industrielle ou minière dans d'autres pays, c'est de supprimer Areva ici. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi, il y a le cadre théorique et puis après la pratique militante. Dans la pratique militante, ce qu'il faut, c'est qu'on fasse des liens avec les autres continents. D'ailleurs, juste après, là, on a une conférence sur les accords de libre-échange avec l'Afrique. Mais voilà, dans nos pratiques politiques, ce qui nous unit, c'est notre unité politique, notre nation. Qu'on aime ça ou pas, moi je suis pas un fan de la nation, mais il n'y a pas beaucoup d'échelle politique. Ouais. Ouais, non, je comprends bien. Mais t'as raison. Une autre question ?
Ouais, moi je me posais la question, apparemment donc la balance entre le rapport de force États-Unis-Europe dans le traité le rapport de force dans le traité entre les États-Unis et l'Europe serait plus favorable aux États-Unis, et à ce que j'ai cru comprendre, et du coup pourquoi nos hommes politiques, quel est l'intérêt ils ont à signer le traité en fait, pourquoi ils réagissent pas d'eux-mêmes alors peut-être qu'ils se basent sur les mauvais modèles dont tu parlais, qui partaient de mauvaises hypothèses et tout. Mais dans ce cas-là, est-ce que eux sont pas conseillés par des gens qui ont conscience que le modèle est mauvais, ou est-ce qu'ils pensent vraiment que les modèles sont justes, et enfin à quel niveau ça pêche de ce côté-là en fait? Est-ce que tu as une idée?
Ou quels sont leurs intérêts personnels là-dedans, peut-être?
Alors là, pour le coup, on parle vraiment de politique, tu as tout à fait raison. Comme j'ai dit au début, il y a vraiment un accord politique qu'on voit personnifié par exemple dans Emmanuel Macron, et qui est une idéologie. Le néolibéralisme, c'est vraiment une croyance politique forte, c'est la croyance que en libérant le monde de l'emprise des règles sociales, le marché va équilibrer le monde. Donc c'est bien des gens qui croient en ce qu'ils font, entre guillemets. Maintenant, très concrètement, je sais pas si tu as vu le documentaire Bruxelles Business, Bruxelles c'est une plaque tournante entre les lobbies et les parlementaires. Ils vivent dans un petit monde. On n'est pas devant eux. Donc il est évident que aussi ils ont concrètement au quotidien des gens qui les bombardent de ces idées-là. Donc je pense qu'ils y croient en partie. Après, sur le rapport de force, c'est vraiment secteur par secteur. C'est-à-dire que globalement, les États-Unis sont un peu plus compétitifs, plus unis, etc. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment des secteurs sur lesquels les États-Unis ont des choses à perdre. Mais il est évident que l'Europe se défend très mal. On défend très très mal nos intérêts et on les défend très mal parce qu'on est un bloc mal fédéré. Non, pas auprès de l'Afrique et de l'Asie, t'as tout à fait raison. Mais voilà. Mais au niveau des États-Unis, c'est vrai que les États-Unis sont beaucoup plus forts que nous pour défendre leurs intérêts. Ça n'a rien à voir. Ils se permettent de condamner des pays unilatéralement et tout le monde a peur, donc applique les peines. Enfin, c'est un pays qui a beaucoup de pouvoir. Mais voilà, moi je te dis, je pense que vraiment c'est des gens qui ne prennent pas en compte les effets sociaux des traités, qui ont une façon de réfléchir économique, qui regardent des grands agrégats moyens. On réfléchit en moyenne tout le temps. On évince complètement la politique. Ou en tout cas, on prétend le faire et finalement derrière, on applique des solutions tout à fait politiques. Enfin, c'est à peu près aberrant ce qui se passe en ce moment, quoi. Vous avez des décennies de luttes qui sont rayées d'un trait de crayon par une ministre inconnue qui arrive. On passe en 49-3. Enfin, on est en train de jouer avec des choses extrêmement profondes, quoi. Et je pense que, sincèrement, c'est aussi ça, depuis les années 80, le néolibéralisme. L'union, en tout cas la solidarité entre les chargés d'affaires est vraiment mondiale. C'est des gens qui se réunissent jour après jour au forum de Davos, à X commissions, etc. et qui traînent ensemble. Ils sont plus dans une logique nationale. C'est vraiment la nouvelle logique capitaliste. Pour moi, quand ils négocient ensemble, nous, naïvement, on regarde les effets sur nos pays. C'est pas du tout ça que la nationale ne regarde pas dans quel pays elle agit. D'ailleurs, son résultat est déclaré en Irlande pour pas payer d'impôts. Donc, dans tous les cas, moralement, c'est à peu près abject, mais ça répond à une logique, le développement du marché comme harmonisation du monde. Bien.
Oui, moi je voulais simplement rappeler, parce que tu dis que la loi travail, c'est juste une ministre qui sort de nulle part, qui sert les... Voilà, bon... Je voulais simplement rappeler que la loi travail, c'est l'application en droit français des directives européennes. Alors, c'est Bruxelles qui l'a décidé. C'est la Commission européenne de Bruxelles qui, chaque année, publie un certain nombre de mesures qu'elle estime bon d'effectuer dans tous les pays européens. Alors, la destruction du code du travail a déjà eu lieu dans les pays d'Europe du Sud. Voilà, c'est simplement notre tour. Je voulais juste rappeler ça, ça sort pas de nulle part. C'est les traités européens, la loi travail.
Merci beaucoup.
Juste là, on arrive vers les 5 dernières minutes de l'intervention. Donc, on va prendre les dernières questions qui restent et puis ensuite, comme ça, tu pourras conclure. Non, mais ou une remarque aussi, hein. Allez-y, il reste quand même un peu de temps.
J'ai envie de parler d'un bouquin qui a été écrit par Eva Joly. Que vous connaissez tous, je pense, qui s'appelle Le loup dans la bergerie, et que vous connaissez peut-être pas. Quand je vois ton regard, je me dis, ouais, tu connais peut-être pas, et qui explique que le Luxembourg, aujourd'hui, pendant très longtemps, est un genre de paradis fiscal européen, dans le sens où ils ont récupéré l'argent qui n'est pas parti dans les impôts, qui fait vivre certains pays, enfin, fait vivre certains systèmes. Et Eva Joly, que c'est clairement, c'est pas ma candidate, c'est pas une personnalité que je retiens. Elle aurait sorti son bouquin avant les présidentielles, j'aurais voté pour elle. Mais elle explique clairement que Juncker, qui est un cadre de la Commission européenne, le président européen et compagnie machin, explique que ils ont fait en sorte que le Luxembourg soit devenu un paradis fiscal, dans le sens où les lois internes se sont accommodées avec les lois européennes, les directives et compagnie, pour faire en sorte que ce soit un paradis fiscal. Et aujourd'hui, elle essaie de le dénoncer dans un bouquin, dans un livre qui est assez intéressant, et je vous invite à découvrir. Et je m'en fous des verres, hein, à la base.
Non, mais juste pour compléter l'anecdote au sujet du Luxembourg, parce que je connais pas le bouquin d'Eva Joly, mais, Mais par rapport au Luxembourg et ces problèmes de cohabitation un peu entre Juncker et le Luxembourg, ben, il a eu un problème il y a 5 ans, Juncker, je crois, c'était il y a 5 ans. Il a eu à investiguer les paradis fiscaux du Luxembourg parce que apparemment le ministre des Finances à l'époque, dans les années 2000, il avait fait un système d'impôts par lequel chaque entreprise avait à négocier en privé avec le gouvernement le pourcentage à payer. Donc les multinationales qui paient 1% d'impôts sont assez nombreuses. Mais le problème de se battre contre ça et le problème qu'a eu Juncker à investiguer tout ça, c'est qu'au fait, le ministre des Finances au Luxembourg à l'époque, c'était lui. Donc s'investiguer soi-même et se trouver coupable, peut-être n'était pas aussi facile.
Tu parlais de l'Irlande qui est un exemple qui revient assez souvent parce qu'il y a Google, Facebook et compagnie. On s'axe là-dessus, on détourne l'attention sur l'Irlande et compagnie qui a un système économique, d'imposition qui est super souple et très réduit. C'est super. Tu vas monter tes boîtes là-bas, tu seras très peu imposé et compagnie. Mais on oublie justement le Luxembourg qui est vraiment. Une machine à accumuler l'argent qui vient de nos pays, qui vient de la France, qui vient de l'Allemagne et compagnie. Et ils ont une croissance qui est à 5%, je pense, il me semble. Pour pas dire d'erreur, on va dire la croissance est à 5%, tandis que dans le reste de l'Union, c'est à 0,5% la croissance en ce moment. Et on sait très bien que c'est pas normal. On le vit. On le subit. Juncker, qui était ministre de l'économie il y a 5 ans, qui après a été élu par des gens qui sont censés nous représenter dans l'Union. Enfin. Comment ? Juncker aujourd'hui. Juncker aujourd'hui fait. Ce qui est marrant avec l'Union Européenne, c'est qu'il y a beaucoup de pôles. Donc on a un président de l'Union Européenne qui est portugais, qui est très. Merde, j'ai pas mes mots. En tout cas, on a un président de l'Union Européenne qui est portugais et qui est très. Merde, j'ai pas mes mots. Bon, bref, on s'en fout. Et derrière, au niveau Luxembourg, que tu penses, ne faisant pas partie de l'Union Européenne, Juncker, c'est l'un des principaux dirigeants européens. Sa position actuelle au niveau de l'Union Européenne, il l'appuie. Et je suis pas assez politicien, je suis désolé de dire ça. Des gens savent mieux en parler moi et du coup j'arrête d'en parler parce que.
Du coup je te laisse conclure.
Bon, merci pour cette réaction. Bah, juste pour rebondir sur les points sur lesquels vous avez fini, on est bien d'accord et l'Europe a très peu de raisons d'aller mal. Quand on additionne le fait que la Banque centrale ne prête pas aux États 0%, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à payer des impôts pour rembourser des banques privées. Quand on additionne l'Irlande, qui a tous les revenus fiscaux de l'Europe, quand on additionne le Luxembourg, quand on additionne l'Angleterre qui est restée à la livre sterling pour attirer tous les flux financiers en Angleterre, la City c'est 50% du PIB anglais. Donc on a des épines dans le pied qui sont des épées dans le pied. Et après ça on se plaint d'être endetté, etc. Moi je trouve qu'avec la Sécu, un endettement relativement limité, si on enlève tous les intérêts qu'on a payés aux banques privées, on a des systèmes qui marchent pas trop mal. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, comment on milite? Ben voilà, pour moi, il faut soutenir les propositions politiques visant à sortir des traités européens, parce que le seul moyen de changer notre système politiquement, c'est notre échelle d'action. Deuxièmement, je pense qu'à l'intérieur, il faut vraiment qu'on se protège contre tous les dispositifs qui permettent de fluidifier la mise en place des traités, notamment la loi travail, qui abaisse les standards français et permet plus facilement d'harmoniser les standards internationaux. Donc voilà, tout ça, c'est des stratégies globales. Il n'y a pas de victoire demain et pas un optimisme incroyable à avoir. Simplement, il y a des méthodes d'action qui sont toujours les mêmes, qui des fois ont porté leurs fruits et qui des fois ne les portent pas. Et aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, c'est résister dans tous les cas. Voilà. Il n'y a pas 36 solutions. Mais un jour, t'inquiète pas, l'Angleterre paiera la monnaie de sa pièce et le Luxembourg également. Les peuples sur le long terme. Moi, je pense. Oui, je suis d'accord. Autant ne pas s'attaquer aux particularités nationales et remettre en verzingue. Ouais, je suis d'accord. D'où la réflexion sur un mode économique qui est la décision économique au nom de la rentabilité et non au nom de la souveraineté politique. Voilà, merci à tous et maintenant je vais passer la parole à Abou Ndiaye pour une conférence sur les APE. Donc merci de m'avoir écouté, maintenant on va faire un petit zoom sur l'Afrique. Voilà.
Alors juste, vous allez être obligé de vous déplacer un petit peu parce qu'ici il va y avoir l'air de jeu, donc on va juste aller, de toute façon il pleut pas, c'est pas grave, on n'a pas besoin de la bâche. Mettre sur l'autre carré, juste là-bas, donc on se décale un peu et puis on enchaîne directement du coup avec Abdou.